L'homme se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Il fut presque renversé par un homme qui, la face rouge et suinte, se précipita dans le cabinet du chef de la sûreté. « Quoi, que voulez-vous ? » s'écria Molescott, croyant avoir affaire à quelque fou. Il saisit le revolver posé sur son bureau et le braqua dans la direction de l'inconnu. Celui-ci s'arrêta net. « Oh non, non, ne tirez pas ! Je suis un citoyen honorable. Stanley Howard est directeur de la San Francisco Life Institute. Depuis ce matin, je vous cours après. Partout, on me dit que vous venez de partir. J'ai été à Florida Street. Vos détectives ne m'ont pas laissé entrer. L'un d'eux m'a menacé de m'arrêter si j'insistais. Enfin, je suis venu ici. J'ai profité de ce que les hommes allaient dîner pour passer. J'ai vu votre porte s'ouvrir et alors je suis entré. Et que me voulez-vous ? Fit froidement Molescott, qui avait écouté parler Stanley Howard sans l'interrompre. Vous savez que ma compagnie a assuré avant-hier Sir John Strobbins sur la vie pour la somme de 3 millions de dollars et je voudrais savoir. Oui, je sais, je l'ai vu sur les journaux de ce matin. Quelle réclame ! Eh bien, je vais vous dire ce que vous désirez savoir, répondit John Molescott avec une joie féroce. John Strobbins, coupable d'assassinat. Oh, c'est d'ores et déjà prouvé. Sur la personne de l'honorable Harris Boulder, va être capturé incessamment. Il sera jugé à mort et exécuté. Et votre compagnie devra payer 3 millions de dollars. Cela vous apprendra à traiter avec des assassins. Maintenant, gentlemen, je vous prie de vous retirer. Goodbye. Stanley Howard, abattu comme s'il venait de recevoir un coup de massue, ne trouva rien à répondre. Titubant, il gagna la porte à reculons et disparut. James Molescott posa son revolver sur son bureau. Il était content de lui. Il passa son pardessus, coiffa son chapeau et sortit. Il déjeuna rapidement dans un restaurant du voisinage et rejoignit au poste de police de Broward Street Anthony Paston, à qui il avait donné rendez-vous. Le détective paraissait profondément abattu. « Oh, rien de nouveau, patron, » dit-il d'un air triste. « Avec les camarades, j'ai interrogé tout le voisinage. Personne n'a rien vu, rien entendu. Seul un locataire de la maison faisant face à celle de l'honorable Harry Baudelaire croit se rappeler avoir vu vers 1 heure du matin deux gentlemen très bien vêtus entrer chez la tornée générale. Il pensa que c'était M. Boulder lui-même et un de ses amis, et il n'y fit pas attention. Cependant, il se souvient parfaitement qu'un des deux hommes était vêtu d'un court pardessus couleur mastic et de souliers vernis. C'est tout. Mais vous dites deux hommes. Pourtant, vous en avez vu sortir trois. Ben, c'est ce que j'ai fait observer au témoin, mais il a maintenu ses dires. Et l'automobile, personne ne l'a vu ? Non, personne. C'était une voiture très silencieuse. Les assassins ont dû la garer du côté du port. Et les empreintes, chef, étaient-elles bien de John Strobbins ? Oui, oui, le chef du police anthropométrique les a reconnues. Il faut absolument que nous en parlions de ce bandit. Jusqu'ici, l'opinion publique, amusée par ses tours, le soutenait. Mais cette fois-ci, sa popularité est finie. Les deux hommes conversèrent encore quelques instants, Puis James Bolle Scott, songeur, sortit et se dirigea vers l'hôtel de la police. Un cigare en bouche, il marchait lentement en se demandant par quel moyen il s'emparerait de John Strobbins. Le détective cambrioleur avait dû, certes, prendre ses mesures avant d'accomplir son crime, et à l'heure présente, il était loin et bien caché. Peu à peu, Molly Scott perdit sa bonne humeur. Ses démêlés avec John Strobbins n'avaient jusqu'ici prêté qu'à rire, mais s'il parvenait à arrêter le cambrioleur devenu assassin, il sentait bien qu'il n'aurait plus qu'à résigner ses fonctions. Perdre 12 000 $ par an, sans compter le reste. Cette perspective était triste. Aussi, tout en marchant, James Molestart envisageait l'avenir. Une chose le tracassait. Quelle relation y avait-il entre l'assurance sur la vie souscrite par John Strobbins et l'assassinat de l'attorney général? Molly Scott l'expliqua en pensant que le détective cambrioleur, résolu à se venger, avait fait le sacrifice de sa vie et avait voulu que sa mort profitât à ses amis. Ses amis, mais lesquels? Bon, je vais demander cela à M. Howard. Le nom du bénéficiaire de la police me fournira peut-être une piste intéressante. Cette réflexion fit hâter le pas à James Miller Scott. Oui, c'est cela. John Strobbins aura voulu se venger de la tournée générale qu'il a sans doute fait condamner. Soudain, le chef de la sûreté de San Francisco s'arrêta net, comme médusé. Un frisson le secoua. Il se trouvait à ce moment à l'intersection de la Wyoming Avenue, de la 22e rue, et à moins de 20 mètres devant lui, un homme marchait lentement en lisant un journal qu'il tenait devant sa figure. Sa lecture semblait l'intéresser énormément, car il ne faisait pas attention aux poussées et aux bourrades que ne lui ménageaient pas les passants pressés. Cet homme était vêtu d'un court par-dessus, couleur massif, et portait aux pieds d'élégants souliers vernis. « Mais c'est John Strobbins !» murmura Molly Scott en sortant son sang reflué du doigt vers son cœur. Oh, il jeta un rapide regard autour de lui. Aucun policeman en vue. Quelle malchance! L'homme au par-dessus mastic, cependant, continuait à lire son journal. James Molly Scott s'arrêta. Il dissimula dans la poche de son manteau sa main armée d'un revolver et d'un pas tranquille, il marcha dans la direction de l'individu. Il en fut bientôt à 1 mètre et, sortant son revolver, il le braqua sur lui en criant « Les mains hautes, rascal ou chouti !» L'homme tressaillit. Ses doigts s'ouvrirent et laissèrent échapper son journal que le vent emporta. James Molly Scott aperçut le visage. Un visage complètement rasé, aux lèvres un peu pendantes. Les yeux étaient grands ouverts et exprimaient une stupeur profonde. La bouche, tremblante, avait une expression ignoble. C'était cela le véritable visage de John Strobbins? James Molly Scott ne se le demanda pas. Il répéta « Hands up !» main en l'air. L'homme obéit, tandis que la foule accourait, rendant maintenant toute fuite impossible. Le chef de la sûreté de San Francisco tira de sa poche une paire de menottes qui ne le quittait jamais et ordonna « Allons, canaille, Tends tes mains, ou je tire. L'homme obéit encore. James Molescott, d'un geste professionnel, lui passa les menottes et dit « Maintenant, suis-moi, canaille !»« Oh là là, on vous suit !»« Quoi ?» fit le prisonnier d'une voix rauque, et il emboîta le pas au policier. 2 minutes plus tard, James Molescott, triomphant, entrait avec son prisonnier à l'hôtel de la police. À la vérité, il ne reconnaissait pas John Strawbins dans l'homme au visage bestial, à la voix crapuleuse qu'il avait arrêté. Mais John Strawbins avait tant de fois changé d'apparence qu'il convenait d'attendre avant de se prononcer. D'autre part, l'homme pouvait être un des assassins de la tournée générale, sans être pour cela John Strawbins, puisqu'ils étaient trois. Traînant à ses côtés son prisonnier, qui, il faut bien le dire, n'opposait aucune résistance, James Molescott traversa les couloirs au milieu de l'admiration des détectives. Il parvint ainsi à son bureau et sonna. « Priez M. Schmitz de venir, ordonna-t-il au planton accouru, et appelez-moi deux hommes pour maintenir le prisonnier. »« Oui, chef. » L'homme sortit et presque aussitôt, deux détectives arrivèrent. James Molescott leur confia Jolly Strawbins, ou du moins celui qu'il appelait de ce nom. Débarrassé de sa prise, James Molescott posa sur son bureau son revolver qu'il n'avait pas lâché, tira son mouchoir et s'épongea le front. Il avait chaud, autant par l'effet de la course que par l'émotion que lui causait ce qu'il considérait comme un exploit admirable. Il toussa et dit « Eh bien, James Strawbins, vous voilà pris. Je suppose que vous accepterez votre sort avec bonne grâce et que vous tenterez, par d'opportuns aveux, de vous concilier la bienveillance de vos juges, bien que, vraiment, vous en soyez indigne. Mais je ne suis pas James Strawbins. C'est ce que nous allons voir. En tout cas, vous êtes un des assassins de l'honorable Harry Boulder. Et je vous le répète, seuls de francs immédiats aveux peuvent vous sauver de la chaise électrique. » Le prisonnier ne répondit pas. James Molescott, agacé, tambourina nerveusement sur sa table. Dans le vaste bureau, le silence régna, qui permit soudain d'entendre deux coups légers frapper contre la porte. « Entrez !» fit le chef de la sûreté. Par la porte entr'ouverte, un vieillard, vêtu de noir, le visage rasé orné d'étales montures d'or, entra et s'inclina devant James Molescott. Celui-ci, d'un geste, lui désigna le prisonnier et dit « Mes hommages, monsieur Schmitz. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir prendre les empreintes de cet homme. D'après sa démarche et sa stature, j'ai tout lieu de croire, bien qu'il s'en défende, qu'il est John Strawbins. Ah ah !» Et le chef du service anthropométrique jeta sur le prisonnier un coup d'œil scrutateur et murmura « Nous allons voir cela !» Il tira de sa poche une mince boîte de cuivre remplie d'une pâte noire ayant l'aspect et la consistance du cirage et dit au détective qui surveillait l'inculpé « Défaites-moi la main gauche de cet homme !» Le prisonnier tressaillit. James Molleston s'en aperçut. Il saisit son revolver et s'écria « Allez, obéissez, pas de résistance, l'homme, je vous casse la tête sans hésitation. » Je ne crains rien, je suis innocent, répondit le prisonnier. Et il se laissa faire comme s'il était un automate. Monsieur Schmitz lui saisit la main gauche et lui fit successivement appuyer ses cinq doigts sur la pâte noire contenue dans la boîte de cuivre. Puis il l'obligea à imprimer sur une feuille de papier blanc posée sur le bureau du chef de la sûreté l'empreinte de ses doigts ainsi noircis. Ce fut ensuite au tour de la main droite. Le prisonnier ne dit pas un mot. Il semblait absent. Quand ce fut fini, M. Schmitz, laissant les feuilles sur le bureau de Wallace Scott, se retira et revint quelques instants plus tard, suivi d'un homme en blouse blanche, portant sur son dos la porte sur laquelle l'assassin de Latournelle avait laissé sa sanglante empreinte. Le chef du service anthropométrique tenait lui-même en main deux fiches en carton sur lesquelles avaient été collées les empreintes des doigts de Josh Robbins, prises lors de son dernier emprisonnement. M. Schmitz sortit de sa poche une large loupe et, au milieu d'un silence angoissé, examina les trois empreintes. Celle collée sur les fiches, celle de la porte et celle du prisonnier. Ce dernier conservait son air d'indifférence abrutie. James Wallace Scott, certainement plus audacieux que lui, fixait le directeur du service anthropométrique d'un regard ardent. Enfin, après 20 minutes d'examen, M. Schmitz leva la tête. Il posa sa loupe sur la table et dit « Bien que du premier coup d'œil, ma conviction ait été faite, j'ai tenu à examiner plusieurs fois les différentes empreintes qui me sont soumises. Il n'y a aucun doute, je le dis bien haut, elles proviennent toutes des mêmes mains. Vous pouvez d'ailleurs, monsieur Wallace Scott, vous en assurer facilement. Oh, je vous crois. » James Wallace Scott ne demandait qu'à croire. Il croyait même d'avance. Ainsi, aucun doute, c'était bien John Robbins, l'assassin. Il se tourna vers le prisonnier et d'une voix que la joie faisait trembler, il s'écria « Alors, qu'avez-vous à répondre, John Robbins ?»« J'ai à répondre que je ne suis pas John Robbins. »« Ah, et qui êtes-vous ? Je serais heureux de le savoir. »« Oh, vous n'avez qu'à le chercher !» répondit le prisonnier d'un ton hargneux. James Wallace Scott commençait à être au bout de sa patience, qui était courte. Il reprit donc. « Donc, Monsieur Schmitz ne s'y connaît pas, et moi-même je suis un imbécile. » Wallace Scott s'interrompit. Il venait d'avoir une idée. Comme un ressort qui se déclenche, il se leva et bondit sur le prisonnier. Il lui saisit les bras et lui retira ses manchettes. L'une d'elles était dégarnie de son bouton et une jumelle d'or marquée JS retenait la seconde. James Wallace Scott eut un rire nerveux. Il brandit au bout de son bras le fragile bijou et glapit. « Est-ce là, bandit, y as-tu pensé ?» Tu as laissé l'autre dans la chambre où tu allais assassiner l'honorable Harry Boulder et où un détective l'a trouvé, hein? Tu pensais pas à celle-là? John Robbins haussa les épaules. Vous me faites suer, mon brave homme, dit-il. Vous êtes trop bête. Moi, John Robbins, ha ha ha! « Conduisez-moi ce bandit dans une cellule, » hurla Wallace Scott, renonçant à rien retirer du prisonnier. « Et surveillez-le pour les 100 000 diables !» John Strobbins, j'irai te voir exécuter ces cris et ces menaces semblaient ne pas troubler le prisonnier. Il cracha sur le tapis et, docilement, se laissa emmener par les deux détectives, tandis que M. James Molescott murmurait au chef du service anthropométrique « Quand même, je ne le reconnais plus. Il était si poli lorsqu'il se contentait de voler. Maintenant qu'il assassine, il a pris les allures véritables du bandit qu'il est. » Le soir même, les journaux de San Francisco publièrent le récit détaillé de l'arrestation de John Strobbins, assassin de l'honorable Harry Baudelaire. Et ils célébrèrent les louanges de l'héroïque James Molescott, qui à lui seul avait découvert John Strobbins et l'avait immédiatement arrêté. Ainsi, le chef de la sûreté de San Francisco se réhabilitait aux yeux de ses concitoyens. À vrai dire, la culpabilité de John Strobbins rencontrait beaucoup d'incrédules. Nombre de citoyens de San Francisco se refusaient à croire qu'il ne fût plus commis un crime aussi odieux que l'assassinat d'un vieillard. Parmi ces derniers, M. Stanley Howard, il avait ses raisons pour cela, se distinguait par son zèle. Il ne cessait de répéter à qui voulait l'entendre qu'une monstrueuse erreur judiciaire se préparait. Cependant, il fallait bien croire à la culpabilité, puisque, à défaut des aveux du criminel qui opposait un mutisme farouche au juge d'instruction, les empreintes de ses doigts offraient un témoignage écrasant et irréfutable. L'instruction fut rapidement faite. John Strobbins, se renfermant dans un mutisme dont il ne sortait que pour injurier le juge qui l'interrogeait, et aucun de ses complices n'ayant pu être pris, malgré les efforts de James Molescott. Après 3 semaines de détention, le juge annonça au célèbre détective cambrioleur qu'il allait passer devant la cour d'assises dans 5 jours. John Strobbins se borna à hausser les épaules. Mais, reconduit dans sa cellule, il réclama enfin l'assistance d'un avocat, ce qu'il avait refusé jusque-là. Maître Darling et son secrétaire vinrent donc le visiter le lendemain. Introduits dans sa cellule, ils restèrent une demi-heure avec lui et se retirèrent sans vouloir faire la moindre déclaration aux journalistes qui les attendaient à la porte de la prison. Ils revinrent le lendemain et le surlendemain voir le prisonnier sans qu'on pût rien savoir. Enfin, le jour du procès arriva. Une foule énorme, massée depuis la veille devant le palais de justice de San Francisco, se rua, sitôt les portes ouvertes, dans la salle d'audience qui fut bientôt remplie. Si bien que plus de 500 personnes n'y purent trouver place. Il faut bien le dire, le public fut déçu. John Strobbins apparut sale et loqueteux, la barbe hirsute et les cheveux en désordre. À l'interrogatoire traditionnel du juge Morlaix sur son état civil, il se borna à répondre « Je vous dis, je ne suis pas John Strobbins. » Des huées de l'assistance accueillirent cette affirmation. James Molescott vint témoigner que l'accusé était certainement Strobbins. Le détective Anthony Preston affirma sous serment qu'il reconnaissait Strobbins pour l'avoir vu sortir de la maison du crime. Le chef du service anthropométrique fit passer sous les yeux des jurés les empreintes des doigts de John Strobbins et une photographie de celle découverte sur la porte. Elles étaient bien identiques. « Mais on ne m'a jamais pris d'empreintes !» hurla l'accusé. Vous l'avez qu'à vous en assurer, voyez mes doigts, je suis victime d'une machination infernale. Monsieur Schmitz haussa les épaules. Il demanda au juge la permission de reprendre les empreintes des doigts de l'inculpé, séance tenante. Cela lui fut accordé. Il eut rapidement terminé et fit passer au juré la feuille de papier sur laquelle, devant tout le monde, John Robbins venait d'appliquer ses doigts. Cette fois-ci, plus le moindre doute. Le juge remercia le directeur du service entomométrique et fit comparaître le directeur de la San Francisco Life Company. M. Stanley Howard fut sublime. En reconnaissant l'accusé, il obligeait ainsi sa compagnie à payer l'assurance souscrite par lui. Cependant, il n'hésita pas. L'accusé est bien celui qui est venu conclure avec moi une police d'assurance au nom de John Robbins. Bien qu'il ait notablement changé sa physionomie, je le reconnais sans crainte de me tromper. Mais monsieur Omar, ou Omar, je ne vous ai jamais vu. Vous êtes un idiot ou un malhonnête homme. Le directeur de la San Francisco Life haussa les épaules et alla s'asseoir furieux. Ainsi, l'accusé était confondu. Le juge le somma alors d'expliquer l'emploi de son temps. Il va maintenant falloir nous dire, John Robbins, ce que vous faisiez pendant la nuit du 17 juin, au cours de laquelle fut assassiné l'honorable attorney général Harry Baudelaire, et du 19, où on vous vit le détective Stanley Preston. Mais Anthony Preston ne m'a jamais vu. Mon témoignage vaut le sien, et c'est à vous de prouver que je suis coupable. Je ne suis pas John Robbins. Je ne connais pas la tournée Hardy Baudelaire. Je ne comprends rien à toute cette affaire. Oh, condamnez-moi si vous voulez. Malgré tous ses efforts, le juge ne put rien tirer d'autre de l'accusé. Il donna donc la parole au prosecuting attorney, à l'avocat général. Celui-ci, à grands traits, retraça les principaux exploits de John Robbins et termina en affirmant que l'assassinat était la fin logique d'une pareille existence. Il demanda énergiquement la mort pour punir l'odieux forfait commis par l'accusé. Après quoi, Maître Darling se leva. Avec un grand talent, il essaya d'excuser son client et fit appel à la pitié du jury. Ses paroles restèrent sans écho. Le public était désillusionné sur le beau John Robbins, devenu une dégoûtante épave humaine. « Vous n'avez rien à ajouter pour votre défense ?» demanda le juge à l'accusé. « Non, je n'ai pas à me défendre, je suis un innocent jugé par des imbéciles !» goya John Robbins. Une rumeur d'indignation accueillit ses cyniques paroles. « Silence !» glapit un huissier. John Robbins regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un et reprit. « D'abord, j'en ai assez de toute cette comédie et... Garde, faites taire l'accusé ou emmenez-le !» D'une solide bourrade, les deux gardiens, encadrant le détective cambrioleur, l'empêchèrent d'en dire plus long. John Robbins haussa les épaules et se tut. Le jury se retira dans la chambre de délibération, d'où il revint quelques instants après avec un verdict impitoyable. Le juge se dressa et d'une voix forte annonça que John Robbins, reconnu coupable de vol, escroquerie et assassinat, était condamné à mort. Quelques applaudissements claquèrent. John Robbins ne broncha pas. Il ne dit pas un mot. Docilement, il suivit ses gardiens qui le ramenèrent à la prison. 6 jours après sa condamnation, John Sobbins fut conduit sur la chaise électrique. Ceux qui assistèrent à l'exécution furent unanimes à déclarer que le condamné avait certainement perdu l'usage de sa raison. En sa qualité de chef de la sûreté, ce fut James Morris Scott qui vint à 6 heures du matin lui annoncer que ses derniers moments étaient venus. « John Sobbins, dit-il d'une voix que l'émotion faisait trembler, car, malgré tout, il se sentait une sympathie obscure pour l'homme contre lequel il avait tant lutté. « Il faut vous préparer à mourir. Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Le condamné, qu'une camisole de force entravait, se dressa hagard. « Quoi, John Sobbins mourir ? Mais je suis pas John Sobbins, moi !» James Mollet Scott haussa les épaules. « T'es entendu, mon garçon, et c'est tout ce que vous avez à dire. Mais je ne veux pas mourir, c'est une plaisanterie. Je suis innocent, laissez-moi. » James Mollet Scott n'insista pas. Il fit signe aux deux gardiens. Ceux-ci ligotèrent les jambes du condamné qui se débattait en poussant des hurlements incohérents et le portèrent dans le sous-sol où ils l'assirent sur la chaise fatale. Le médecin lui fixa sur le crâne un casque de cuivre et ayant mis ses chevilles à nu, les entoura de cercles de même métal que le casque. Puis il alla tourner un commutateur fixé au mur de granit. Un courant de 20 000 volts traversa instantanément le corps du condamné, qui pendant un instant se tordit en atroces convulsions. Puis il se raidit et ne bougea plus. Le médecin constata la mort. L'acte de décès était préparé. Il fut immédiatement signé par les témoins. Le directeur de la prison, Latornay, James Mollet Scott et le médecin. Le corps du nommé John Sobbins, détaché de la chaise électrique, fut emporté et enterré dans un coin du plus proche cimetière. Un peu triste malgré tout, James Mollet Scott, qui avait également assisté à l'inhumation, se retira. 7 heures du matin sonnait aux horloges de la ville. Le chef de la sûreté, se sentant fatigué, se hâta vers l'hôtel de la police. Il y arriva bientôt et, ayant gagné son bureau, s'étendit sur un divan et ne tarda pas à s'endormir après avoir ordonné qu'on le réveillât à 9 heures. Cependant, l'exécution de John Sobbins, annoncée par des éditions spéciales des principaux journaux de San Francisco, avait été rapidement connue dans la ville. En se rendant au building de la San Francisco Life Insurance, M. Stanley Howard apprit cette désagréable nouvelle. Il s'y attendait, mais pourtant il en fut péniblement affecté. Ainsi, par sa faute, la San Francisco Life allait devoir payer 3 millions de dollars. L'esprit chagrin, M. Howard franchit le somptueux hall et entra dans son bureau. Pour la première fois depuis 10 ans, il était en retard. 9h10. Il s'était arrêté pour lire les détails, insignifiants d'ailleurs, de l'exécution de John Sobbins. À la porte de son bureau, l'huissier le salua et dit « Deux gentlemen attendent monsieur le directeur. »«
C'est bien, vous ferez entrer dans 2 minutes, » répondit Stanley Howard, heureux d'échapper aux tristes pensées qui l'obsédaient.
Il retira son léger pardessus et, avec un soupir, alla s'asseoir devant son bureau. Presque aussitôt, 2 élégants gentlemen entrèrent et le gratifièrent d'un magistral coup de chapeau. L'huissier se retira.
« Gentlemen, commença Stanley Howard en se levant, veuillez vous asseoir, je vous prie.
Les gentlemen s'inclinèrent. L'un d'eux, souriant, commença. « Cher monsieur, je suis monsieur José Reynaud, le bénéficiaire de l'assurance sur la vie souscrite ici par mon infortuné ami John Strobbins, que Dieu ait son âme. » Stanley Howard tressaillit. Il pâlit. « C'est bien, dit-il, je vais vous faire un chèque. Avez-vous des pièces d'identité ?»« Oui, voici, acte de naissance, photographie et signature légalisée. J'espère que vous avez, suivant les instructions de ma lettre datée du jour de la condamnation de mon noble ami John Strobbins, avisé la Californian Bank du paiement important qu'elle allait avoir à me faire, n'est-ce pas ?» Oui, parfaitement, gentlemen. Vous avez la police d'assurance sur vous ? La voici. Oui, tout est en règle. Merci. Stanley Howard poussa un soupir. Il alla vers un coffre-fort scellé derrière lui dans le mur, l'ouvrit et en tira un carnet de chèques. Ainsi se terminait l'affaire conclue avec John Strobbins. Il fallait payer, car autrement, c'eût été faire un tort énorme à la San Francisco Life Insurance Company. Le conseil d'administration avait donc décidé de faire honneur à la police souscrite par le détective cambrioleur. Mauvaise affaire, mais qui, somme toute, allait constituer la plus formidable publicité qui puisse être pour la San Francisco Life. Stanley Howard s'étant assis devant son bureau, libella son chèque. Sa main tremblait un peu en écrivant à payant M. José Reynaud la somme de 3 millions de dollars dont vous délibérez à votre compte. Il eut rapidement terminé et tendit le chèque à M. Reynaud, qui, après l'avoir examiné, le mit dans sa poche et dit « Voulez-vous être assez aimable, cher M. Howard, de nous accompagner à la Californian Bank? Cela évitera bien des formalités. » Le directeur de la San Francisco Life n'en était plus à cela près. Il répondit, « Comme vous voudrez, messieurs, je suis à vous. Oh, trop aimable, vraiment. » Stanley Howard, la démarche lasse, remit le carnet de chèque dans le coffre-fort qu'il referma, puis enfila son pardessus et sortit aux côtés des deux hommes. 10 minutes plus tard, Howard et ses compagnons arrivait à la Californian Bank, où José Reynaud présenta le formidable chèque que venait de lui remettre le directeur de la San Francisco Life Company. « Faut-il vous ouvrir un compte, gentleman ?» demanda le caissier obséquieux. « Non, non, versez-moi la somme en billets de 1 000 $. » Le caissier ne fit aucune objection. Il compta 3 000 billets de 1 000 $ à José Reynaud contre le chèque dûment acquitté. Reynaud compta les précieuses banknotes, en fit un paquet et le tendit à son compagnon qui le serra sous son bras. « Maintenant, dit-il, cher monsieur Howard, laissez-nous vous remercier de votre bonne grâce et de la correction avec laquelle vous avez réglé notre petite affaire. Peut-être m'assurerai-je un jour sur la vie, et dans ce cas, n'en doutez pas, je ne manquerai pas de penser à vous. » Sur ces mots, Reynaud et son compagnon serrèrent la main du directeur de la San Francisco Life et d'un pas tranquille rejoignirent une puissante automobile qui venait d'arriver devant la Californian Bank. Ils y montèrent. La puissante voiture démarra aussitôt à toute vitesse. À l'intérieur, Reynaud alors se mit à rire. « Ce brave Howard n'est vraiment pas aussi physionomiste qu'il l'a affirmé devant la cour d'assises. Il n'a même pas reconnu John. » John Strobbins, c'était lui, sourit avec satisfaction.
Mais cela ne veut rien dire. Quand je le veux, on ne me reconnaît pas facilement, moi. Ouf. Oh, je l'avoue, je suis heureux que tout ça soit fini. Cela devient vraiment dur de gagner sa pauvre vie. John Slavin soupira. Il tira d'un étui d'or une cigarette fine égyptienne et l'alluma d'un geste gracieux. M. Stanley Howard, cependant, avait regagné son bureau à la San Francisco Life Insurance Company. Maintenant que l'argent était versé, il convenait de n'y plus penser, mieux de penser à le récupérer, en annonçant à toute l'Amérique le beau geste de la compagnie d'assurance qui, bien qu'ayant traité avec un criminel, avait loyeusement tenu ses engagements. Et quels engagements? 3 millions de dollars! M. Stanley Howard, donc, s'étant installé dans son cabinet de travail, défendit qu'on le dérangeât sous quelque prétexte que ce fût, et se mit en devoir de rédiger l'annonce devant porter au nu la munificence de la San Francisco Life Insurance Company. Après une heure de réflexion, il crut avoir enfin trouvé une formule définitive. Il crayonna quelques mots sur un papier et sonna. « Envoyez-moi une dactylographe, » dit-il au planton accouru. La dactylographe accourut. Elle s'installa dans un coin devant une machine à écrire et attendit, les doigts recroquevillés au-dessus des touches. « Vous y êtes, miss, » fit Stanley Howard. « Oui, bon, bien, je commence. La San Francisco Life Insurance Company, la plus puissante, la plus riche, la plus ancienne, la plus... » Des pas précipités s'entendirent dans l'antichambre. Le bruit d'une discussion retentit. « Mais quoi ?» hurla le directeur de la San Francisco Life en se retournant furieux. « J'ai défendu !» La porte s'ouvrit. James Molescott, les yeux hors de la tête, le chapeau de travers, fit irruption dans le bureau. Un huissier qui le poursuivait l'attrapa par le pan de son manteau. Le chef de la sûreté se retourna et d'un coup de poing asséné de toutes ses forces sur la mâchoire de l'huissier, l'assomma à demi. L'homme s'écroula en gémissant. « Mr. Howard !» lui hurla James Monescott, sans faire attention à la dactylographe qui le regardait épouvanté. « Vous n'avez pas payé l'assurance de John Robbins, hein ?» « John Robbins !» bégaya Stanley Howard, complètement ahuri. « Oui, John Robbins, il est vivant, il s'est moqué de nous tous, mais j'arrive à temps, hein. Bien sûr que j'ai payé, il y a plus d'une heure. » James Molescott regarda le directeur d'un San Francisco Life Insurance avec un mépris non dissimulé. « Pauvre idiot !» dit-il. « Ah, ça, dites donc, Monsieur Molescott, faites attention à vos paroles, n'est-ce pas ?»« Oh oui, excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis. Le misérable, mais j'aurais dû me méfier. Moi, je voulais vous téléphoner de la prison, mais le téléphone ne marchait pas, alors je suis venu. »« La prison? Mais expliquez-vous, par l'enfer. » « John Robbins a-t-il été, oui ou non, exécuté ce matin ?»« Non, c'est un autre qui a été électrocuté, » fit James Molescott en s'essuyant le front. Il se laissa tomber sur un fauteuil et dit « Allez, faites sortir ces gens, je vous dirai cela. » Stanley Howard, aussi pâle que James Molescott était rouge, se tourna vers la dactylographe
car l'huissier s'était éclipsé, craignant de recevoir un deuxième coup de poing, et balbutia « Veuillez vous retirer, miss !» La jeune fille, furieuse de ne pas pouvoir entendre la suite d'une conversation qu'elle devinait intéressante, lança un mauvais regard à James Molescott et s'en alla en faisant claquer la porte derrière elle. « Eh bien ?» demanda Stanley Howard. Le chef de la sûreté de San Francisco cracha sur l'épais tapis et grommela. « eh bien, John Sobeys n'est pas mort. Et vous avez été escroqué de 3 millions de dollars. Lisez cette lettre qu'un quidam est venu en automobile apporter pour moi à l'hôtel de la police il y a 3 quarts d'heure. Vous serez renseigné. » Et James Molescott tendit à son interlocuteur une élégante enveloppe mauve qui portait comme suscription à M. James Molescott, chef de la sûreté de San Francisco. Stanley Howard en tira une feuille de papier à lettres de même couleur, entièrement couverte d'une écriture haute et aristocratique. « Mais j'étais aussi à la prison. J'ai vérifié. John Strabins dit vrai. Quel homme! Oh, il eût fait un rude policier !» soupira James Molescott. Stanley Howard, la fièvre aux tempes, lut. « Cher Molescott, étant donné nos anciennes et cordiales relations, il m'eût été réellement fort pénible de vous laisser dans le marasme calamiteux où vous vous trouvez, j'en suis sûr, à l'heure présente. Ma mort a dû porter un coup cruel à votre cœur sensible. Et pourquoi vous le cachez ? Cette pensée était une des plus tristes préoccupations que m'a valu l'affaire que je viens, Dieu merci, de mener à bien. Non, je ne suis pas mort. Je n'ai pas été électrocuté. Je ne suis pas l'assassin de l'honorable Harry Baudelaire. J'espère que la joie de me savoir vivant tempérera en vous l'amertume de me savoir innocent et libre. Ma liberté, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous la démontrer. Reste mon innocence. Si vous voulez me faire l'honneur de lire jusqu'au bout ces modestes lignes, j'ose croire que vous serez fixé. Donc, la nuit où s'accomplit le crime pour lequel j'ai été poursuivi, je me promenais avec un ami dans la Florida Avenue. Vers 3 heures du matin, je me trouvais en face du numéro 261, lorsque, au travers d'une fenêtre éclairée du premier étage, je vis distinctement une ombre dessinant avec exactitude une main humaine brandissant un poignard s'abaisser. « Ah, cela, dis-je à mes amis, c'est quelqu'un qu'on assassine. » 261. « Mais c'est le cottage de la tornée Harry Baudelaire. C'est un de ses clients qui se venge. Allez, allons voir. » Grâce à mon rossignol qui ne me quitte jamais, j'ouvris la porte et, suivi de mes deux amis, pénétrai dans la maison. La porte de la chambre à coucher au premier était ouverte lorsque nous arrivâmes. Un homme vêtu de haillons solides se tenait droit, immobile, comme hébété, devant la latornée Harry Baudelaire qu'il venait de poignarder. Nous nous précipitâmes sur lui. Oh, l'animal était fort. Il se défendit avec rage et vigueur. Mais enfin, nous en eûmes raison et le ligotâmes. Il nous prit pour des policiers et ricana. Ah, vous m'avez. N'empêche que je l'ai refroidi, la tornée. Il m'a fait condamner injustement. J'avais promis de lui faire son affaire, c'est fait. Jack Wilkerson n'a qu'une parole. Nous ne lui répondîmes pas, indécis de ce que nous devions faire de lui. Car ce n'est pas notre métier d'arrêter les gens. Soudain, un de mes amis me dit « Oh, regarde, John, il te ressemble étonnamment !» Je vérifiais cette affirmation, c'était vrai. Cet assassin possédait un regard semblable au mien. Son visage reproduisait mes traits tels qu'ils seront sans doute dans 10 ans. Un éclair, ou dirais-je de génie, non, je suis modeste, me traversa l'esprit. Je m'écriai, mais descendons cet imbécile à la cave. Il est bientôt 4 heures. Nous viendrons le chercher demain. J'ai une idée. Mes amis m'obéirent. Nous transportâmes l'assassin dans la cave du cottage, et après l'avoir bâillonné, nous l'y laissâmes décidés à venir le chercher la nuit suivante. Mon idée est la voici. M'assurer sur la vie pour une forte somme, me faire passer pour l'assassin de la Tournai, me faire condamner à mort et faire exécuter le véritable assassin à ma place pour toucher la prime. Oh, c'était hasardeux, mais bien calculé, puisque j'ai réussi. À 9 heures du matin, j'avais terminé mon enquête et appris que la Tournai avait renvoyé son domestique et que chacun le croyait à la campagne. Tranquille de ce côté, je me rendis à la San Francisco Life Insurance, où je m'entendis avec M. Stanley Howard. Vous lui ferez mes amitiés, si vous le voyez. La nuit suivante, je n'eus pas le temps de m'occuper de mon assassin. J'attendis encore 24 heures et vins le chercher en automobile avec mes 2 amis. Le détective Anthony Preston nous aperçut au moment où nous quittions la maison. Je m'en réjouis. Ah, j'oubliais de vous dire que c'est volontairement que je laissais contre la porte l'empreinte de ma main, enduite de couleur rouge et non de sang. Les experts ne sont pas fins. Et je perdis mon bouton de manchette marqué J.S. Je conduisis mon prisonnier dans une maison que je fis louer en face de la prison. Et là, mon premier soin fut de lui faire écrire l'aveu de son crime, dont je jouais la photographie à la présente de crainte qu'il ne se perde. Jack Wilburton y consentit avec facilité. Il prétend que la Tournai Harry Baudelaire l'a fait condamner injustement. Bon, cela ne me regarde pas. Ceci fait, j'allais me faire arrêter par vous. Oh, vous imite, mon cher Molescott, une bonne grâce dont je vous serai éternellement gré. Avouez que j'étais bien camouflé, hein? J'avais vraiment l'aspect d'un ignoble assassin. Cela m'ennuyait assez, mais il faut vivre, hélas. Pendant l'instruction et le procès, je jouais mon rôle avec assez d'à-propos, vous en conviendrez. Je niais, contre l'évidence, être John Strobbins. Vous comprenez pourquoi, oui. Le lendemain de ma condamnation à mort, mes amis, qui avaient établi sous la vue un passage souterrain allant de ma cellule à la maison qu'ils avaient louée, vinrent pendant la nuit me délivrer et mettre à ma place, et ce n'était que juste, Jack Wilburton préalablement endormi. La justice n'a rien à me dire. Que demandait-elle? Que l'assassin de l'honorable Harry Baudelaire fût puni, c'est fait. J'ai ainsi évité une désagréable erreur judiciaire et j'ai gagné 3 millions de dollars, toutes choses excellentes. En déterrant le cadavre de John Wilburton, vous aurez une première preuve de la véracité de mes affirmations. Et la seconde vous sera fournie à la prison. Une des dalles de la cellule que j'occupais avant que que Jack Wilburton me remplaça, recouvre l'origine griffice du souterrain qui me permit de m'en aller sans bruit. J'ai fini. Il ne me reste, cher monsieur Molescott, qu'à vous prier d'excuser ce gribouillis informe et à nous souhaiter à tous deux une prompte rencontre. Et pour vous prouver que c'est bien moi qui vous écris, voici les empreintes de mes doigts. John Strabbins, détective cambrioleur. Postscriptum. Inclus l'adresse du larmurier chez qui Jack Wilburton a acheté son poignard. Stanley Howard, ayant terminé sa lecture, tendit la lettre à James Molescott d'un geste lent. « Et le plus triste, conclut le chef de la Sûreté de San Francisco, c'est que le gaillard a dit vrai. Ce n'est pas lui l'assassin, c'est Jack Wilburton. J'aurais dû m'en douter. Oh, c'est une sale affaire qui nous coûte exactement $2,640,000, monsieur Molescott, conclut Stanley Howard tristement. »